Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il s'appelle Sylvain Maillard, Stéphane Demilly, Napolé Polutélé et Paul Molac. Leur point commun, tous les quatre ont été élus députés hier dès le premier tour de scrutin. Dans les 573 autres circonscriptions, il y aura donc un second tour. Alors, il y a 5 ans, donner le nom des vainqueurs du premier tour aurait été fastidieux. Ils étaient 36 à l'époque. Il y a 10 ans, cela aurait été impossible, sauf y consacrer toute une émission. 110 députés étaient dans ce cas. Que s'est-il passé cette fois-ci pour qu'il ne soit que 4 ? Eh bien, l'abstention et l'éparpillement des candidatures. Plus de 51% des électeurs ont fait le choix de ne pas aller voter, obligeant les candidats à obtenir au moins 25% du nombre des inscrits pour se qualifier dès le premier tour. La profusion de candidats, jusqu'à 26 dans une même circonscription, a fait le reste. La victoire n'en est pas moins nette pour La République En Marche. Les commentateurs politiques rivalisent depuis hier pour la qualifier. Une vague, un tsunami, un raz-de-marée, un triomphe. Pour tous les autres, LR, PS, PC, FN, FI, c'est la déroute, le marasme, un champ de ruines. D'autant plus impressionnant à observer qu'il y a quelques semaines encore, l'hypothèse d'une cohabitation imposée à Emmanuel Macron apparaissait comme la plus probable. Alors ce paysage est-il de l'ordre du provisoire, un accident lié aux circonstances si particulières de la dernière présidentielle, ou bien traduit-il quelque chose de définitif, une fin de l'histoire pour les partis traditionnels? Où en est la décomposition? C'est la question que nous posons ce soir dans le cadre de ce grain, en compagnie d'Anne Jadot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, spécialiste de sociologie électorale, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Lorraine. Pour discuter avec vous, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir. Oui.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-rédacteur en chef de la revue Politics, spécialiste du Parti socialiste. Et puis troisième invité, Vincent Martini. Bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Producteur de l'Atelier du Pouvoir chaque samedi à 12h45 sur France Culture. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'École Polytechnique, chercheur associé au CEVIPOF. Et vous avez publié, c'était quand l'an dernier,
en novembre.
Dire la France aux presses de Sciences Po, Culture et Identité nationale. Alors j'ai été frappé cet après-midi en découvrant la une du journal Le Monde qui présente, comme tout un tas de journaux, le camembert avec les différents scores attribués aux différentes formations politiques, sauf que là, ils ont intégré dans ce camembert l'abstention, ce qui revient donc à mettre en lumière les scores et les proportions liées non pas au nombre de suffrages exprimés, mais liées aux inscrits, ce qui réduit d'autant la part de chacun. Par exemple, pour La République En Marche et le Modem, ça fait 15,39% des inscrits. Ça réduit aussi les écarts entre les différentes formations politiques. Est-ce que vous considérez que, étant donné le niveau de l'abstention, c'est la bonne façon de présenter les résultats, Frédéric Savicky?
C'est une façon qu'on devrait utiliser systématiquement, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de ramener évidemment, pourrait dire, les scores au nombre de voix par rapport aux inscrits. D'abord, ça permet évidemment, comme vous l'avez fait, de bien positionner la légitimité de chaque parti politique, mais aussi leur représentativité. Et puis, ça permet aussi de faire des comparaisons dans le temps et de mesurer effectivement à quel point le phénomène d'abstention n'a pas simplement concerné l'électorat pour dire du Parti socialiste, des Républicains ou du Front national ou de la France insoumise, mais aussi l'électorat d'Emmanuel Macron. Il y a une démobilisation générale, évidemment, qui demande à être expliquée par des facteurs sociologiques, mais aussi par cette hypothèse qu'on peut faire que pour beaucoup d'électeurs, finalement, l'élection présidentielle semble être le moment où tout se joue et où finalement la messe est dite. Alors on verra s'il y a un sursaut au deuxième tour, mais je pense qu'effectivement c'est très important de toujours ramener aux inscrits.
Alors, puisque c'est votre spécialité, la sociologie électorale, Anne Jadot, est-ce qu'on a une idée justement des raisons qui ont conduit à cette forte démobilisation dans tous les camps, même si c'est sans doute moindre du côté de La République En Marche, mais enfin elle existe également. C'est vraiment les législatives qui intéressent moins que la présidentielle, ou bien il y a d'autres raisons qui apparaissent?
Alors en fait, il y a une combinaison de facteurs toujours pour pouvoir comprendre l'abstention. D'une part, il y a des raisons sociologiques qui sont relativement classiques. On a des études, par exemple, des données d'Ipsos Steria qui ont été faites, qui montrent que les ouvriers, les employés, ceux qui ont, dont les foyers ont des revenus modestes, qui sont moins diplômés que les autres, votent moins, participent moins. Il y a aussi de très forts effets générationnels. En gros, il y a 2/3 des moins de 34 ans qui n'ont pas voté hier, alors que c'est seulement 1/3 chez les 60 ans et plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Depuis une vingtaine d'années, on a ce qu'on appelle l'intermittence du vote, c'est-à-dire un peu sur un mode on-off, les gens qui tantôt participent, tantôt s'abstiennent. Et les jeunes sont particulièrement sujets à ce type de comportement alternatif. Ils se mobilisent quand ils ont l'impression que c'est important, qu'il y a un gros enjeu. L'élection présidentielle, avec sa médiatisation importante, avec la perspective cette année de la présence de Marine Le Pen au second tour, était mobilisatrice. Les législatives le sont beaucoup moins. J'ai eu l'occasion de faire ma thèse sur ce sujet-là, sur le rapport des citoyens aux différents types d'élections. Ils ne savent pas forcément à quoi ça sert un député. Donc, c'est pas un scrutin qui mobilise beaucoup, en particulier la jeunesse. Se rajoutent à ça des facteurs politiques de spécifiques à cette année, où, comme le disait Frédéric, l'impression que les jeux étaient joués, étaient faits depuis la présidentielle.
Voilà, parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai suspense pour la présidentielle, Vincent Martigny, en tout cas avant le premier tour, on ne savait pas qui seraient les deux finalistes. Là, on avait quand même le sentiment, même si quelques semaines plus tôt on disait l'inverse, que les jeux étaient déjà faits et qu'il s'agissait simplement de connaître quelle serait l'ampleur de la majorité qui serait accordée à Emmanuel Macron.
Oui, ça a pu avoir lieu conséquence sur l'abstention d'ailleurs, parce que les jeux semblaient tellement faits qu'il n'était pas nécessaire de se rendre au vote. On voit bien d'ailleurs que dans le vote final pour Emmanuel Macron, même Macron perd des voix, en fait il perd 2 millions de voix environ, de gens qui ne se sont pas portés aux urnes pour le soutenir, même s'il y a le score de son électorat qui l'a soutenu. On voit qu'il y a un ressac aussi des électeurs d'Emmanuel Macron qui est très important. Je crois que c'est aussi important de remettre les choses un peu en perspective historique. On voit bien que la situation à laquelle on se prépare pour dimanche prochain, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a une très large majorité, probablement une des plus larges majorités pour un parti dans l'histoire de la Ve République, voire dans l'histoire depuis 1870. Il y a un seul précédent, c'est 1993, où la droite avait obtenu 472 députés, RPR et UDF, mais à l'époque, il y avait eu 65% de participation. Il n'y avait que 35% d'abstention. Donc on est loin quand même de ce record-là. Mais ce à quoi on assiste ici, c'est que quand même, vous avez ce sentiment que autant il y avait un enjeu au premier et au deuxième tour de l'élection présidentielle, autant dans ces élections législatives, les choses sont faites. On est dans un alignement électoral de la Ve République. On donne une majorité au président, mais on est sûr qu'il va l'obtenir.
Est-ce que, autre hypothèse que je voudrais vous soumettre, et pour expliquer peut-être le niveau de l'abstention, et également les résultats, avec quand même cette très large avance pour les candidats de La République En Marche, est-ce qu'on peut pas aussi voir l'effet d'une alternative un peu déséquilibrée? C'est-à-dire que les électeurs, hier, avaient le choix entre, finalement, soit voter pour la majorité présidentielle, à savoir le candidat de LREM, je sais pas comment faudra dire d'ailleurs à l'avenir, mais enfin, j'espère qu'on pourra trouver une contraction qui conviendra à tous, pour pas dire à chaque fois La République En Marche, et puis de l'autre côté, parfois une vingtaine de candidats avec un éparpillement qui était quand même, me semble-t-il, assez inédit, Frédéric Savicky.
Alors peut-être que c'est moins l'éparpillement des candidats que l'absence de clarté quand même des positions des principaux candidats adversaires de La République En Marche. Selon les circonscriptions, certains candidats du Parti Socialiste étaient ouvertement hostiles, d'autres étaient prêts à travailler avec le gouvernement, se revendiquaient même de la majorité présidentielle. Pareil pour les candidats de la droite. Donc du coup, évidemment, d'ailleurs on voyait très très bien sur les affiches, sur les tracts électoraux, tous les symboles habituels, y compris les couleurs des partis politiques, avaient complètement disparu. Le bleu dominait à peu près tout. C'est très très compliqué. Et le message, pour dire qu'a porté LR ou le PS pendant cette campagne, voire le Front National, qui a été très peu présent, y compris d'ailleurs dans les circonscriptions, était très inaudible. C'est-à-dire qu'au fond, à quoi cela pouvait-il bien servir, à part peut-être pour la France insoumise, mais qui a d'une certaine façon aussi, en jouant une carte très particulière, refusant l'alliance avec les Verts, avec le PC, etc., ont quand même considérablement brouillé le message. C'est-à-dire, au fond, voter pour ces partis, on ne savait pas pourquoi si c'était voté. Est-ce que c'était voté pour le gouvernement? Est-ce que c'était voté pour une espèce d'opposition radicale, pour une opposition constructive, etc.? Alors tout ça n'a évidemment pas favorisé la surmobilisation, enfin, en tout cas la mobilisation minimum des électeurs.
Anne Jadot.
Alors, sur le nombre de candidats, en fait, ça fait depuis les nouvelles règles sur le financement public des partis politiques qu'on a assisté à une explosion du nombre de candidatures par circonscription, puisqu'il leur faut avoir au moins 1% des suffrages exprimés dans 50 circonscriptions différentes pour ensuite être éligible à l'aide publique. Donc ça, c'est pas une nouveauté de 2017. Je crois qu'on est passé de 11 candidats en moyenne à 14 en moyenne par circonscription. On accroît une tendance qui est déjà là depuis le milieu des années 90. Je pense que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'interrogation sur... Il y a quelques semaines, on se demandait encore, y aurait-il cohabitation ou pas. Quelque part, Emmanuel Macron a fait un petit peu un coup de maître en nommant Édouard Philippe à Matignon, parce que ça a complètement coupé l'herbe sous le pied de François Baroin et des autres chez les Républicains, qui avaient commencé leur campagne en disant ces législatives peuvent être le troisième tour de la présidentielle et il peut y avoir une cohabitation. Oui, sauf que quelque part, en allant chercher un Premier ministre de leur camp à eux, cet argument était forcément moins audible. Après, un autre élément pour expliquer la faible mobilisation, c'est une forme de lassitude citoyenne. On a eu l'occasion de faire une enquête de terrain avec des groupes de discussion, avec une analyse de réception de la campagne au laboratoire communication et politique, et on sentait qu'à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, il y avait une forme de saturation parce que avec les primaires, ça faisait des mois et des mois qu'il y avait ces campagnes successives, et ça a aussi contribué à se dire bon bah voilà, ça a duré très très longtemps, on sait qui a gagné l'élection présidentielle, ceux qui ne savent pas chez les citoyens à quoi ça sert un député et l'importance pourtant des législatives ne se mobilisent pas après.
Peut-être qu'un des acquis justement d'ailleurs de cette très longue période électorale sera que bah, il y aura plus de primaires la prochaine fois, parce que on a vu qu'en tout cas ça n'a pas été très favorable à ceux qui se sont prêtés justement à cet exercice. Vincent Martini.
Oui, bah à partir du moment où il n'y a plus de grands partis, forcément il n'y a pas besoin d'organiser des primaires, c'est l'avantage d'une certaine manière. Donc pour revenir à ce que disait Frédéric Savicky tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est qu'on se pose la question au lendemain de ce premier tour de qui est la nouvelle majorité. Pour des raisons toutes bêtes, on ne connaît pas les nouveaux arrivants, ce qui va d'ailleurs poser des questions peut-être dont on reparlera non seulement dans cette émission mais la semaine prochaine, c'est-à-dire comment fonctionner avec une assemblée dont les nouveaux arrivants ne sont pas au fait des us et coutumes de cette assemblée, comment est-ce qu'on peut l'organiser, mais c'est aussi qui est l'opposition. C'est vrai, c'est une évidence quand on regarde à Paris par exemple, dans le 18e arrondissement, vous aviez Myriam El Khomri qui était plus ou moins pour la majorité présidentielle, Bournazel, les Républicains qui en fait était main tendue vers Emmanuel Macron sur ses affiches marquant avec Emmanuel Macron pour la majorité présidentielle. On voit bien que là il y a un hiatus parce que non seulement on a là une majorité très forte, mais on a aussi une opposition qui fait presque partie de la majorité. On se sent qu'elle se dit prête à travailler de manière constructive, ce qui veut dire éventuellement peut-être en fonction des rétributions symboliques ou matérielles qu'elle pourrait obtenir de la majorité, à se mettre à disposition du président de la République.
Alors ça me permet justement un lien avec la question suivante et avec cette question qu'on pose ce soir de l'état de la décomposition, notamment du paysage politique. Qui est l'opposition? Qui l'incarne? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, alors prenons le Parti Socialiste, dont vous êtes un des spécialistes, Frédéric Savicky. Est-ce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, alors n'est pas le principal parti d'opposition, on verra bien ce qui va se passer d'ici au second tour, mais enfin, en tout cas, ça ne sera pas la principale formation d'opposition, mais en tout cas, est-ce que c'est un parti d'opposition?
Alors, si on regarde ceux qui seront probablement les élus socialistes, mais aussi divers gauches, radicaux, on s'aperçoit que le groupe, s'il y en a, parce que les radicaux ont pratiquement autant de chances de gagner le même nombre de sièges que les socialistes, ce qui est quand même une ironie de l'histoire assez fâcheuse pour le PS. Quand on regarde donc la répartition, on a l'impression quand même que donc il y a d'abord des radicaux, il y a des socialistes, et que parmi les socialistes qui ont les chances d'être élus, beaucoup sont des gens qui sont effectivement prêts à travailler ou qui ont bénéficié directement d'ailleurs de l'absence de candidats En Marche face à eux. Donc est-ce que le Parti Socialiste va être, ou le groupe socialiste de l'Assemblée va être en mesure d'incarner une opposition? Rien n'est moins sûr. Alors peut-être que l'évolution aussi de ce gouvernement fera que d'anciens socialistes ou des transfuges socialistes vers En Marche reviendront au bercail à mesure que la politique peut-être menée par le gouvernement se droitisera de plus en plus et que des conflits sociaux risquent de naître. Ça, on ne peut pas le savoir, mais en l'état, en tout cas, voilà. Il y a aussi la France insoumise. Là aussi, même problématique. Il y a des députés communistes qui risquent de revenir, sinon en masse, mais du moins en nombre significatif à l'Assemblée. Il n'est pas sûr qu'ils acceptent de siéger dans le même groupe que les députés de la France insoumise.
Cela dit, posé.
Donc on peut avoir des recompositions à l'intérieur de la gauche, peut-être une partie de socialistes critiques avec des communistes, et puis peut-être quelques verts. Voilà, donc tout est ouvert, y compris dans cet espace relativement restreint aujourd'hui de députés de gauche.
Cela dit, poser la question de savoir si le Parti socialiste est aujourd'hui dans l'opposition, c'est peut-être lui prêter beaucoup d'attrait, encore beaucoup d'attrait, dans un moment où on dit que le PS
est terminé. C'est lui prêter une unité.
C'est
lui prêter en tout cas une unité qu'il n'a plus. C'est-à-dire que sa direction est complètement délégitimée. Le premier secrétaire a été très sévèrement battu. Les principaux représentants, à part Manuel Valls, mais qui lui-même s'est mis en dehors du parti, risquent d'être éliminés. Donc, la seule façon que le Parti socialiste définisse une nouvelle ligne, c'est qu'il réunisse très vite un congrès et que, évidemment, ses membres, ceux qui restent en tout cas, choisissent, tranchent quant à la ligne à adopter vis-à-vis du gouvernement. Sans cela, on aura une situation de caractère complètement inaudible du PS jusque-là.
Jadot.
Alors, je vais peut-être faire un commentaire un peu cynique, mais c'est certain que d'un point de vue idéologique, ils ont des grosses divergences en interne, ceux qui vont réussir à être élus. Il y a des avantages structurels et matériels tels à former un groupe au sein de l'Assemblée nationale que ils en formeront peut-être deux différents avec des mélanges à la fois de PC, de PS d'un côté, de France Insoumise de l'autre.
À condition qu'ils aient les moyens numériques.
À condition qu'ils aient les moyens numériques d'en avoir 30 à eux tous, mais ça me paraît exclu.
Un groupe divers gauche avec des radicaux et des socialistes.
Voilà. Mais c'est important structurellement d'avoir un groupe. C'est pour ça, par exemple, que quelle sera l'opposition. Si Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre réussissent à se faire élire à titre individuel, mais il y aura des moyens contrastés probablement. Il n'y aura pas de groupe de députés FN. Ça donne moins de moyens structurellement dans l'Assemblée nationale.
Mais Vincent Martini. Puisqu'on est en période de recomposition, rien n'est interdit d'imaginer là une recomposition qui aille au-delà des frontières du PS. On pense encore en termes d'un parti qui serait constitué, qui se pose des questions de ligne et de courant. Les gens qui voulaient partir vers Macron sont partis, une grande partie d'entre eux, en tout cas.
Pas encore.
En tout cas, on va dire que en termes purement idéologiques, il va y avoir une clarification là, dans les jours à venir. Donc une partie d'entre eux formeront peut-être si ce n'est un groupe, en tout cas quelques députés qui se rallieront à la majorité. Et puis il y en a une partie d'entre eux qui peut se rapprocher d'un groupe divers gauche dont Frédéric Savicky parlait et qui peut aussi voter avec la France Insoumise, avec les communistes, etc. Donc, il y a dans la proposition partisane qu'avait faite Benoît Hamon une proximité dans un très grand nombre de points avec ce qui avait été proposé par Jean-Luc Mélenchon. Il y avait une compétition d'acteurs politiques, il y avait une compétition de structures partisanes. On voyait bien que Mélenchon avait presque une rage anti-PS comme un parti dont il voulait la destruction. Mais rien n'interdit d'imaginer que les gens qui ont porté ces propositions-là dans la campagne présidentielle puissent se retrouver dans les prochaines années. Encore une fois, tout ça se fait pas en un jour parce que
ils sont très peu nombreux. Alors, il se trouve qu'ils vont être très, très peu nombreux.
Alors, ils vont être très peu nombreux parce que
ce qu'on appelait les frondeurs.
Et les frondeurs ont été éliminés.
Les frondeurs sont évidemment parmi les principales victimes, ils ne sont pas les seuls, effectivement, de la débâcle électorale d'hier.
Et ce ne sont pas les seuls, mais enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que les frondeurs sont éliminés. Quand, par exemple, quelqu'un comme Myriam El Khomri, qui a quand même focalisé énormément d'attention sur elle, Elle n'est pas encore élue, mais enfin, en tout cas, voilà, elle est qualifiée pour le second tour. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être des erreurs d'appréciation de ce que représentait justement cette fronde au sein du Parti socialiste pendant le quinquennat de François Hollande,
Frédéric Savicky? Pour ce qui est de El Khomri, Valls et les autres, ils bénéficient d'une neutralité plus que bienveillante, évidemment, d'En Marche. Donc, ça facilite quand même beaucoup les choses. Après, sur les frondeurs et sur la responsabilité ou sur le caractère excessif de leur visibilité. Bon, je pense que là, ils sont victimes comme les autres d'avoir été pris en sandwich entre la France insoumise et les candidats d'En Marche. Donc, d'une certaine façon, les électeurs n'ont pas fait le tri. Ils l'ont fait d'autant moins qu'ils se sont peu mobilisés, que beaucoup, sans doute d'ailleurs, devaient ignorer les positions individuelles prises par tel ou tel. Le groupe des frondeurs est un groupe qui, quand même, avait pas vraiment de leader très clairement identifié, à part peut-être Benoît Hamon, mais qui les a rejoints tardivement. Et donc, du coup, ils n'ont pas probablement capitalisé là-dessus. Il aurait fallu probablement, s'ils voulaient avoir des chances d'être élus, qu'ils quittent d'emblée la majorité, qu'ils essaient de se constituer en parti avant l'élection législative.
Pour rester encore sur un instant sur le PS, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la meilleure chose qui puisse arriver peut-être aujourd'hui aux socialistes, ce serait que le PS disparaisse plutôt que de servir finalement de parti d'appoint dans une assemblée nationale où ils seront peut-être très, très peu nombreux et voilà et se retrouver finalement dans la situation qu'a pu connaître, que connaît encore le Parti communiste, c'est-à-dire on apporte des voix mais on n'est plus au centre du jeu politique. Anne-Jadot et Vincent Martini.
Bah, c'est certain que le PS, enfin, Frédéric Savicky pourrait le dire mieux que moi, est dans une situation très délicate parce que cette défaite fait la suite de beaucoup, beaucoup de défaites à toutes les élections intermédiaires, comme on les appelle, depuis 2012. Donc ils ont aussi perdu beaucoup d'élus locaux dans les exécutifs départementaux, régionaux. Il y a tout un ensemble de collaborateurs d'élus, par exemple, qui vont autour. Donc effectivement, ils sont dans une situation où certains se posent même la question de est-ce qu'il faudrait changer le nom du parti, est-ce qu'il faudrait refonder. Il y a les velléités que Benoît Hamon avait exprimées à partir du 1er juillet. Il y avait des courants autour d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'ils vont se considérer que la marque, l'étiquette socialiste vaut encore quelque chose et que ça vaut la peine de s'accrocher à ce titre-là? Ou est-ce qu'ils vont vouloir faire table rase et repartir de zéro? Vu le niveau très faible auquel ils sont, c'est peut-être la fin du cycle d'Épinay.
C'est une question qu'on pose régulièrement, la disparition du PS, sauf que là, c'est peut-être le bon moment de la poser.
Oui, mais surtout, il y a le précédent de 1969. C'est-à-dire qu'en fait, même les gens du PS se disent, bon, il y a eu 69 où on a été éliminé dès le premier tour, et en 71, renaissait ce nouveau parti socialiste, etc. Il y a un peu cette mythologie-là, l'idée qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas, à gauche, refonder un PS qui porterait sûrement un autre nom. La SFIO était ce précédent-là, et puis il pourrait y avoir un autre nom demain, qui se recomposerait sur un pôle, à mon sens, probablement plus à gauche que ce qu'il est, de retrouver ses bases. Parce que si on pense un peu au-delà des élections législatives, qu'ont des logiques propres, on l'a dit, qui sont liées à l'alignement électoral, liées à l'élection présidentielle, il y a un électorat qui porte une forme, encore une fois, de cohérence. Je reviens encore sur cette espèce de plateforme électorale, certes, qui opposait deux chefs, mais qui avait quand même certains points d'unité, celle de la France insoumise, celle du Parti socialiste, lors de l'élection présidentielle. Vous avez là un électorat qui, lui, serait prêt à se réunir, parce que c'est des électorats qui sont très proches. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une très grande circulation entre ces deux électorats. Il y a une fluidité, comme on dit, entre les électorats de la gauche dite radicale et du Parti socialiste aujourd'hui, comme il y en a une de l'autre côté, entre le Parti socialiste et La République en marche. Donc, on peut imaginer que s'il y a un bloc central de La République en marche qui va probablement continuer son travail d'éviction de ce qu'est le vieux PS, une partie de ce vieux PS va aussi se retrancher vers la France insoumise.
Anne-Jadot ?
Juste pour nuancer ce qui vient d'être dit, c'est vrai que ces législatives sont beaucoup dans l'ombre portée de la présidentielle et qu'il y a cette mécanique d'enchaînement et d'entraînement des scrutins. Il y a quand même parfois des résistances d'autres considérations du point de vue des électeurs, qu'on ignore parfois trop souvent. J'avais eu l'occasion de faire une analyse en 2002 des réponses à une question ouverte dans un sondage du CVPOF sur pour quelles raisons ils avaient choisi leurs députés. Et même à l'époque, il y avait des critères comme parce que je le connais, parce que c'est un bon maire, parce qu'il fait des choses bien pour la circonscription. Il y a cet ancrage local et personnalité. Et cette fois-ci, il y a les données d'Opinionway qui le montrent. Dans l'ensemble de l'électorat, le côté personnalité appréciée n'est qu'une raison du vote à 22%, et c'est la proximité avec les idées qui est ultra majoritaire à 77%. Mais quand on regarde par électorat, on voit qu'il y a 12 ou 14 points de plus de cette raison de la personnalité et de l'ancrage chez les électeurs, les Républicains et PS. Donc ceux qui ont survécu au naufrage, et si les Républicains ont réussi, vont probablement réussir à sauver la moitié de leurs députés, c'est aussi parce que c'est des personnalités ancrées qui ont labouré le terrain, qui avaient anticipé la défaite de François Fillon et qui avaient fait campagne plus pour eux que pour lui en mars-avril.
Frédéric Savicky ?
Oui, tout à fait d'accord. Alors, juste un point, le parallèle avec 69 qui est souvent fait. La grande différence, c'est que 69 est arrivé après 68, c'est-à-dire après un mouvement de renouvellement quand même idéologique, sociétal de la gauche. Il n'est pas arrivé après que le Parti Socialiste a gouverné. Il était écarté du pouvoir. Là, les 5 années qui viennent de passer vont peser très très lourd, y compris même si le parti se recompose, parce que l'image associée effectivement aux anciens socialistes, même s'ils adhèrent ou s'ils d'un nouveau parti reste très péjorative et très négative. Et ce que vous disiez sur la proximité des électorats ne se retrouve pas du tout aujourd'hui, ou très faiblement au niveau des militants. Il y a une haine, ou en tout cas un mépris, une soif de revanche, que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon incarne parfaitement, mais il n'est pas le seul à la porter. Il représente en cela beaucoup de militants. Il y a de l'autre côté un esprit de aussi de
règlement de compte très fort entre les socialistes vis-à-vis des frondeurs ou des frondeurs vis-à-vis des communistes, enfin des insoumis qui ne les ont pas soutenus, etc. Et donc, cette étape psychologique, qui n'est pas du tout négligeable, va constituer un obstacle considérable, effectivement, à refonder même autre chose.
Alors, tout à fait d'accord sur 1968-1969. Bon, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais on a quand même le même sentiment d'un renouvellement générationnel. C'est qu'en fait, s'il y a une leçon de cette élection présidentielle, c'est quand même l'idée d'un renouvellement et d'un changement de génération. Enfin, pas la peine de le dire, ça a été répété à l'envi par la plupart des médias. 1968, c'était aussi l'effondrement d'un ancien monde et l'émergence d'un nouveau. À ce titre-là, il y a quand même, même s'il n'y a pas de mouvements sociaux, il y a quand même une permanence. Et quant à ce que vous y disiez sur les militants et les électeurs, je suis absolument d'accord, c'est ce que je vous dis. Il y a une compétition entre deux formes partisanes, hein, ce qui fait que les militants, ceux qui sont des membres des partis se détestent entre eux, eux-mêmes sont de moins en moins nombreux, ce qui compte ce sont les électeurs.
Et Jadot ?
Alors par rapport à ça, moi la comparaison qui me paraît très pertinente, c'est aussi avec 1958 où il y avait un changement de régime et où il y a, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'anciens députés qui ne s'étaient pas représentés, situation qu'on a connue cette année, et il y avait aussi tout un tas de nouveaux arrivés en politique qui devaient leur poste au général de Gaulle, et c'est aussi beaucoup pour ça qu'on a parlé à l'époque des députés Godillot, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'indépendance, d'autonomie, ils lui devaient tout sur leur élection. Là, cette année, sur les nouveaux députés, puisqu'il va y en avoir beaucoup plus même que ce qu'ils attendaient eux-mêmes, je pense, La République en marche. Je voudrais quand même nuancer un petit peu beaucoup de choses qui se disent ces temps-ci sur le thème du renouvellement. C'est vrai en termes générationnels, il y a y compris des gens qui sont des trentenaires, des anciens du MJS, qui ont préféré avoir l'étiquette En marche parce qu'ils avaient une chance de se catapulter et de gagner 10 ans sur leur carrière en étant élus tout de suite. Par contre, sur les autres types de renouvellement, il y a une étude très intéressante faite par Luc Rouban du CEVIPOF sur les 529 candidats et leurs profils. On voit bien que sociologiquement, ça reste des classes supérieures, que c'est des gens très très diplômés. Il va peut-être y avoir un rééquilibrage plus venant du privé que du public. Mais par contre, sur la thématique de la société civile et des gens sans expérience politique, non, parce que beaucoup étaient des anciens collaborateurs d'élus ou membres de cabinet. Éventuellement, ces quelques derniers mois ou années, ils étaient chefs d'entreprise, mais ils ont auparavant travaillé sans avoir eux-mêmes un mandat électif au niveau national, mais il y avait aussi des mandats locaux. Donc l'inexpérience de cette nouvelle vague, ils vont découvrir ce que c'est le travail parlementaire. Et de ce point de vue-là, j'ajoute juste une chose. Ce qui va être très intéressant à suivre, c'est qui va être le président du groupe. Qui va avoir les présidences des commissions permanentes spécialisées,
qui aura le perchoir,
qui sera rapporteur sur les prochains projets de loi, les premiers textes importants. Voilà, ce ne sera pas les novices. Hein.
Encore quelques éléments de suspense, c'est bien, on va pouvoir faire de nouvelles émissions, même après le deuxième tour des législatives. Alors je vous rappelle la question qu'on pose ce soir, où en est-on de la décomposition du paysage politique? On le fait avec Anne Jadot, Vincent Martini et Frédéric Savicky, qui seront tous les trois politologues ou politistes, enfin bon, on peut voilà accepter les deux termes. On a beaucoup parlé de la majorité présidentielle, de la gauche. À droite, cette décomposition, Vincent Martini, a priori, si on en juge par le score qui est fait par les Républicains avec leurs alliés de l'UDI, qui finalement font mieux que le score qu'a fait François Fillon à la présidentielle, c'est pas si mal, non ?
C'est un score en trompe-l'œil, parce que c'est un score sur une participation beaucoup plus faible. Donc vous êtes à 20 et quelques pourcents pour les Républicains, mais en réalité c'est un ressac d'environ 7 à 8 points. Donc en fait, leur réalité c'est qu'ils sont beaucoup plus faibles que s'ils étaient pendant l'élection présidentielle. Donc beaucoup de leurs militants sont partis. Non, il y a vraiment très clairement une grave crise qui dure à droite, mais elle dure depuis très longtemps. Les gens sont en général un peu omnibilés, les commentateurs, par la crise de la gauche, parce qu'elle est très visible, mais la crise de la droite, plus souterraine, est, à mon sens, tout à fait considérable. Elle est de quatre ordres. C'est d'abord une crise générationnelle. Les candidats de droite étaient significativement plus âgés que les candidats des autres partis, y compris de la gauche. J'ajoute une crise de genre. Hein. Cette génération, elle va aussi avec le rapport homme-femme, puisque c'est le parti qui présentait le moins de femmes parmi tous les grands partis qui étaient sur la ligne de départ. Deuxième crise, c'est une crise idéologique, puisqu'on voit bien qu'il y a deux lignes très différentes. Hein. Une ligne qui finalement est représentée paradoxalement par Juppé, Édouard Philippe, donc qui se rapproche d'Emmanuel Macron, et une autre ligne plus conservatrice, sachant que François Baroin a été cet intermédiaire entre ces deux lignes. Une crise de leadership, évidemment, puisque François Fillon a disparu de l'échiquier politique, les grands chefs, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, et on ne sait pas ce que va devenir François Baroin après les élections législatives, donc montre qu'il n'y a pas de chef très clair. Et enfin, une crise financière, qui qui s'était révélé déjà à partir de 2012, et puis l'affaire Bigmalion fait que les Républicains, c'est un parti un peu ruiné. Donc on voit vraiment quatre crises qui sont extrêmement graves, dont il est difficile de penser aussi comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir. Alors, ils limitent les dégâts d'une certaine manière en ayant quand même un groupe le plus important après La République En Marche, mais c'est quand même une crise très grave.
Est-ce qu'on pourrait parler d'état de décomposition avancé s'agissant des Républicains, Frédéric Savicky, et en comparant peut-être au Parti Socialiste, c'est-à-dire avec peut-être un mouvement de départ qui est déjà bien entamé au PS et qui reste encore à venir et peut-être de manière un peu massive chez les Républicains?
Je pense que là où les socialistes ont leur malheur, peut-être pas encore devant eux pour partie, mais quand même largement derrière, bon là ils sont fixés sur leur sort et sur leur légitimité, leur poids politique, pour effectivement les Républicains, les ennuis ne font que commencer, parce que évidemment, dans une perspective où La République En Marche n'aurait pas eu la majorité, il devenait une force d'appoint essentielle dans une alliance électorale, et donc il pouvait à ce moment-là évidemment reprendre une force et une position importante, et là évidemment Macron n'a pas besoin d'eux, tout simplement, donc ils vont se retrouver coincés entre le Front National d'un côté et puis cette nouvelle ligne politique. Il va devenir très très compliqué de justifier des votes contre au Parlement. Chaque vote va potentiellement, en tout cas, créer des problèmes et des dissensions importantes. Ça va se rejaillir aussi sur les élections sénatoriales qui vont arriver, sur le contrôle du Sénat. C'est pas négligeable pour les rapports de droit. Donc, je pense que le fait que, évidemment, ce gouvernement affiche quand même, malgré tout, une politique clairement de centre-droit, ou en tout cas d'ouverture à droite, va évidemment poser la question du statut, de l'utilité de continuer à avoir un parti républicain, et on risque d'avoir effectivement une partition, avec une partie évidemment qui va soutenir négocier le soutien à Macron, et puis une autre qui va partir dans une ligne dont on ne voit pas très bien effectivement quelle elle peut être en dehors d'un rapprochement avec le Front National.
Justement, Anne Jadot, cette hésitation, est-ce qu'on la comprend, est-ce qu'on la ressent dans les motivations des électeurs, et notamment assez législatives, c'est-à-dire des électeurs qui auraient peut-être aussi bien pu, ou seraient en tout cas, auraient voté pour des candidats les Républicains, et qui se sont finalement porté sur les candidats d'En Marche, parce que la distinction entre les deux programmes est peut-être pour certains relativement ténue.
Alors, on constate qu'effectivement, dans l'électorat, les Républicains ou leurs alliés UDI, ils sont largement d'accord avec, d'un point de vue de libéralisme économique, effectivement, avec le programme du président. Le fait que les postes importants à Bercy aient été donnés à Bruno Le Maire et Gérard Darmanin, ils peuvent présumer, du point de vue des électeurs, que la politique économique qui va être menée va leur plaire. Il y a quand même encore des différences en termes de libéralisme culturel sur les enjeux de société. Chez une fraction de les Républicains, ceux qui seraient plus tentés vers se droitiser, se durcir. Mais c'est vrai que le centre-droit des Républicains, qui est pro-européen et qui est plus libéral sur le plan des questions de société, peut aussi être tenté de ce point de vue-là. On a déjà vu que plusieurs d'entre eux ont dit qu'au coup par coup, ils n'excluaient pas de voter des projets de loi, éventuellement même la confiance après le discours de politique générale. Donc effectivement, il peut y avoir aussi un éclatement entre ces deux tendances. Il y a même certains UDI qui, hier soir, commençaient à faire plus ou moins des offres de services. Mais comme le disait Frédéric Savicky, il n'a déjà pas besoin du MoDem pour avoir la majorité absolue tout seul. Pourquoi est-ce qu'il irait chercher des UDI pour élargir quelques postes de secrétaire d'État supplémentaires?
Hier soir, quand François Baroin, qui était le chef de file de la droite pour ces législatives, est intervenu très vite, il a vu qu'il cherchait à montrer quelles étaient, en gros, les grandes différences entre les Républicains et puis la majorité présidentielle. Il est allé sur la question de la fiscalité en disant, attention, vous allez avoir un choc fiscal qui... Ce que vous avez vécu avec Hollande, c'est rien à côté de ce que va vous faire vivre Macron. Cette ligne de fracture-là, Vincent Martini, vous en pensez quoi?
Ce qui est très compliqué pour la direction des Républicains, c'est le décalage qui existe déjà entre les cadres de ce parti et les militants qui votent pour le parti des Républicains. D'une certaine manière, les militants qui ont été chauffés à blanc par Nicolas Sarkozy, par une droite très populaire, une droite très conservatrice, en tout cas relativement conservatrice sur le plan des valeurs culturelles, chauffés à blanc sur les questions d'identité... Elle se retrouve pas vraiment sur des positions plus modérées qui sont celles quand même de la majorité de l'ancien groupe des Républicains au Parlement, par exemple. Donc il faut trouver une base commune de dialogue, ne serait-ce qu'entre la direction du parti et les électeurs de ce parti. Et cette base, on la trouve sur la fiscalité, parce que là, au moins, tout le monde est d'accord, c'est une question de sous. Donc ça réunit tout le monde. Mais le grand décalage, c'est que d'un côté, on a un électorat républicain qui serait prêt à se mobiliser sur un espace de conservatisme, on l'a vu sur la manif pour tous, en termes de valeurs familiales, sociales, culturelles, éventuellement, mais avec un rapport ambigu au libéralisme aussi, parce qu'il y a différentes tranches de l'électorat des républicains sur le rapport au libéralisme. D'une certaine manière, on a le sentiment parfois que les cadres des républicains sont plus libéraux que leur propre électorat du point de vue économique. Et ils le sont moins du point de vue culturel que leur électorat. Et donc il va falloir à un moment donné aussi trouver un nouveau leadership qui corresponde à cet électorat. Parce que si vous ne représentez pas votre électorat, c'est la même chose à gauche d'ailleurs, et bien à un moment donné vous êtes tellement en décalage qu'on ne veut plus voter pour vous.
C'est vrai que la question du leadership, elle est absolument essentielle, à droite comme à gauche aujourd'hui, c'est-à-dire leadership aussi en termes d'incarnation de ce leadership. On ne voit pas très bien encore qui va justement être en mesure de le porter, Frédéric Savicky.
Ah oui, alors dans le cas de la gauche, on va dire que le leadership pour ce qui est de la France insoumise, il est sans doute là incontestable. En plus,
mais pour combien de temps ?
Oui, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon est en... Alors on verra s'il gagne l'élection législative, mais s'il gagne, il va avoir une accès au Parlement et là... Il risque effectivement d'imposer finalement son autorité face à une absence de leadership clair, en tout cas dans l'arène parlementaire et même pour l'instant dans le parti, au Parti Socialiste. Donc la défaite d'Hamon hier, de ce point de vue-là, le met en posture très très délicate. Et beaucoup d'autres membres de la jeune génération et de la jeune garde qui étaient présentés un peu comme on pourrait dire les nouvelles élites socialistes un peu... Baobelkacem, etc. Pilipetti sont éliminés, donc ça, c'est très compliqué de ce point de vue-là. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question de leadership, c'est aussi une question de ligne politique. Donc, évidemment, plus la politique menée par Macron sera, on va dire, de droite, plus ça facilitera cette coalescence, on peut dire, mais ce n'est pas évident. Sur la question du leadership à droite, là aussi, c'est un problème, mais ce n'est pas qu'un problème de leadership. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème, effectivement, de clarification de ligne politique. Il faut quand même voir que ce qui se passe au Front National, on n'en a pas parlé, c'est quand même clairement le désaveu de la ligne représentée par Philippot et par Marine Le Pen, c'est-à-dire une ligne quand même ni droite ni gauche, une ligne populaire, sociale, anti-européenne, etc. Là, on voit bien que c'est plutôt les partisans d'une ligne droitière qui, du coup, sont partisans aussi d'un rapprochement avec une partie des Républicains qui vient de l'emporter. Et donc, on peut imaginer, effectivement, une recomposition qui s'opère autour de ça. Alors, qui serait le leader de ça, là c'est Wauquiez qui évidemment semble en situation de s'imposer, surtout après le retrait de Maréchal Le Pen. Donc tout est possible là aussi de ce côté-là, et on risque paradoxalement d'avoir effectivement la constitution de deux leaderships autour de Mélenchon d'un côté, au moins pour un temps, et puis peut-être de Wauquiez de l'autre, qui représenterait à ce moment-là les deux pôles, un peu comme d'ailleurs sous la 4ème République, on avait le RPF d'un côté, le PC de l'autre, qui représentait les deux extrêmes finalement de l'Assemblée. C'est à voir, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut faire.
En tout cas, ce serait une hypothèse cohérente avec la sociologie électorale qui s'est exprimée à travers et la présidentielle et les législatives. Anne Jadot ?
Oui, en particulier si on regarde cette fois du côté des motivations du vote, quand on demande aux électeurs quels sont les grands enjeux qui comptent, qui leur paraissent être les priorités du pays. Effectivement, sur ce que vient de dire Frédéric Savicky, on voit bien que chez les électeurs du Front National, ça reste le triptyque hyper classique de l'immigration, de l'insécurité et de la lutte contre le terrorisme qui sont les enjeux qui les préoccupent le plus, loin devant les questions d'Europe et d'euro, finalement. Donc, effectivement, entre les deux lignes internes au FN, il va y avoir des arbitrages à faire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Hervé, sur le choix de François Baroin hier soir de mettre en avant la fiscalité et ces thématiques-là, effectivement, là où il y a de la diversité interne à la droite, en revanche, il y a quelque chose qui est très clair chez eux, c'est la question de la réduction des déficits publics, l'allègement des impôts qui reste un peu leur socle sur lequel ils peuvent se redéfinir.
Un tout dernier mot, je ne sais pas si vous aurez le temps tous les trois de vous exprimer là-dessus, mais moi j'ai été frappé depuis hier soir de lire à plusieurs reprises que finalement à travers ces législatives, les institutions de la 5ème République avaient montré à quel point elles étaient solides et triomphantes, et j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse, c'était-à-dire des institutions qui allait peut-être empêcher de laisser s'exprimer une diversité politique telle qu'elle apparaît dans les résultats. Vincent Martini, vous verrez quoi, la force ou la faiblesse de la 5ème ?
C'est les deux, à la fois. C'est l'incroyable plasticité de la 5ème République, comme ce régime qui résiste à tout, Qui montre que s'il y avait une petite disruption de l'ordre électoral par l'élection de quelqu'un qui vient de, a priori de nulle part, au sens où on l'entendait dans le système partisan, qui crée un parti il y a un an, et qui pourtant est élu président de la République, et ben on a un rétablissement de l'ordre électoral, c'est-à-dire on élit un président, on lui donne une majorité, cette majorité est claire pour qu'il agisse. Et en même temps, une faiblesse, parce que on voit bien ce qui est en train de se passer. On a une majorité très large, on a quand même la candidate qui fait 33% des voix au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui risque de se retrouver avec même pas de quoi constituer un groupe parlementaire.
C'est Marine
4,
Le Pen.
5, 6 Marine Le Pen, 4, 5, 6 députés. On a une façon de concevoir l'opposition qui est très liée au système majoritaire. Il n'y a pas d'opposition. Comme ça, c'est plus simple.
On avait le fait majoritaire qui s'est construit dans les années 60 et aujourd'hui, on est dans le fait ultra-majoritaire. C'est-à-dire, c'est complètement fou.
C'est-à-dire, quand on parle de renouvellement et qu'on se retrouve avec un système à ce point figé,
c'est voilà, c'est-à-dire que vous avez un parti qui, au premier tour, vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres, fait moins de 20% des inscrits à l'élection législative et qui va avoir 80% des députés. Aucun système politique ne peut tenir durablement comme ça parce qu'effectivement, vous excluez de la représentation des forces politiques entières. Et je pense que moi, on est plutôt dans le champ du signe de la Ve République. On verra qu'on ne pourra pas continuer comme ça au-delà de ce quinquennat.
Et ben on verra en tout cas dans les prochains mois, voire prochaines années. Merci en tout cas à tous les trois pour ces analyses post-premier tour des législatives. Merci Frédéric Savicky, Anne Jadot et Vincent Martini. Les références bibliographiques des uns et des autres, les sites, les blogs, s'il y en a, c'est sur notre site, comme chaque soir, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Maya Nefkovitch et Louise Fuseau. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Jean-Frédérics. Demain, Moyen-Orient, le retour du politique, c'est la question que nous poserons à Jean-François Colosimo et à Amit Bozarslan.